Ça ne t'a pas échappé, la consommation de produits numériques explose depuis de nombreuses années. Et avec toutes ces nouveautés technologiques, la tentation est grande de changer régulièrement de téléphone, de changer d'ordinateur, de tablette, avec la folle envie d'acheter un modèle tout neuf. Mais ça ne t'a pas échappé aussi que toute une chaîne de valeur s'est mise en place pour racheter et récupérer les objets numériques dont certains ne veulent plus, pour les remettre en état. En bon état afin de les reproposer à la vente à celles et ceux qui ne recherchent pas le modèle dernier cri, parfois hors de prix, mais qui cherchent au contraire la bonne affaire avec un bon rapport qualité-prix. On appelle ça le refurb, oui, le reconditionnement. Et c'est un business très rentable qui, selon certains, serait en plus plutôt vertueux en matière de bilan carbone. Pour mieux comprendre ce que ça change pour de vrai de reconditionner nos devices, l'invité du podcast est aujourd'hui Mohamed Séphane, le CEO et le fondateur des artisans du mobile devenu All-In. Bonjour Mohamed.
Bonjour PPC.
Mohamed, on va démarrer avec une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est ce marché du refurb, du reconditionnement des devices?
Alors effectivement, c'est un marché qui a commencé, en tous les cas, à bien exploser depuis 2015. Donc en fait, c'est tout le fait de ne plus acheter un téléphone neuf, mais d'acheter soit un téléphone d'occasion qui est remis, qui appartient à un ancien propriétaire, soit un smartphone reconditionné qui a été remis à neuf par une entreprise spécialisée. Et aujourd'hui, c'est un marché qui fonctionne plutôt très très bien, puisque pour la petite histoire, on a une personne sur trois qui aujourd'hui achète un smartphone reconditionné sur le marché, soit auprès de boutiques directement, soit auprès de marketplace ou de magasins spécialisés.
En termes d'enjeux, c'est-à-dire que ça se passe comment dans la chaîne de valeur? Il faut penser à quoi? Parce que bon, il faut récupérer les smartphones, les reconditionner, ça veut dire quoi reconditionner un smartphone? C'est quoi les enjeux derrière ça?
Aujourd'hui, pour récupérer les smartphones, la plupart des smartphones sont récupérés auprès de particuliers. Vous devez tous le voir quand vous allez chez votre opérateur, par exemple, il vous propose de racheter votre ancien téléphone. Ce téléphone-là, il repart, c'est des reconditionneurs, c'est soit c'est directement à des particuliers, soit à des entreprises qui revendent leur flotte. La chaîne, donc là, tout commence par là, c'est-à-dire qu'on va récupérer un smartphone qui a déjà une vie. On va commencer à l'auditer. Donc l'auditer, ça veut dire effectivement faire un état général du smartphone. Quels sont les éléments qui sont cassés? Est-ce que la batterie est fonctionnelle? Est-ce que l'appareil photo est fonctionnel? Donc il y a toute une batterie de test pour vérifier que toutes les capacités et tous les composants du smartphone fonctionnent. On va vérifier si c'est un smartphone qui n'a pas été volé, par exemple, via nos bases de données. Et puis, à la suite de ça, on va pouvoir remplacer les pièces défectueuses, le désinfecter, le remettre à zéro, le remettre dans une boîte et le remettre avec des accessoires pour ensuite le revendre. Encore une fois, c'est complètement vertueux, c'est ce que tu disais, soit en boutique chez les opérateurs, par exemple, ou soit sur des marketplaces, ou soit des entreprises, parce que les entreprises achètent de plus en plus de smartphones reconditionnés. Je pense qu'on pourra en parler juste après, mais par exemple, on a la loi AGEC, par exemple, pour les collectivités, le texte dit qu'une collectivité doit consommer 20% de terminaux, enfin de matériel tout du moins reconditionné. Et là, ce n'est pas que du smartphone, c'est aussi du PC, par exemple.
S'ils ne respectent pas cet engagement-là, c'est quoi? Ce sont des taxes supplémentaires?
C'est ça. Exactement.
Ça marche comment?
Exactement. En fait, le texte de loi qui est entré en vigueur en janvier, donc ça va bientôt faire un an, enfin qui a été annoncé en mars, mais qui était dans l'application rétroactive, ils sont exposés à une amende. Et on le voit, nous, on a la chance de travailler avec pas mal de collectivités, on le voit qu'ils respectent en tous les cas cela de plus en plus et partout en France. Mais dans l'idée, effectivement, c'est cette loi, en tous les cas, demande à ce que soit respecté 20%. Alors, pour être même plus précis, c'est 20% de smartphones reconditionnés ou alors 20% des smartphones qui sont utilisés avec des composants, en tous les cas, qui ont une première vie. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer que demain, ça pousse les constructeurs à mettre des matériaux recyclés et éco-conçus sur leur smartphone.
Alors justement, là, tu ouvres la voie sur la réparabilité, c'est ça, des devices. C'est pas toujours très facile de réparer en fait un smartphone parce que c'est très précis, très pointu, les trucs sont presque collés. Il y a eu des progrès de la part des constructeurs là-dessus ou pas?
Alors pas du tout, pas tellement. Alors là ça bouge un petit peu, on va pouvoir en parler, mais effectivement les téléphones sont de moins en moins réparables. Alors PPC, pour être complètement transparent, il y a même deux enjeux. C'est même pas qu'une question de réparabilité, c'est aussi une question d'accès au pied d'étage. détachée et d'accès au manuel de réparation pour la partie réparabilité. C'est ce que tu disais. Aujourd'hui, vous prenez un iPad, par exemple, il y a très peu de vie, c'est-à-dire que la vitre est collée, la batterie est collée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un particulier chez lui ne peut plus réparer son iPad, par exemple, sans prendre de risque. Il y a aussi la difficulté, c'est d'avoir accès aux pièces détachées et aussi le prix de ces pièces détachées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des pièces détachées qui valent plus cher, parfois, pour certains modèles, plus cher que le prix du smartphone sur le prix de l'occasion aujourd'hui. Mais effectivement, c'est de plus en plus compliqué de réparer un smartphone. On le voyait il y a quelques années, par exemple, quand j'avais mon Samsung Galaxy S4 que je voulais changer la batterie, ben, je pouvais le faire tout seul. Maintenant, je vais prendre mon Galaxy S20. Si je veux changer la batterie, ben, je suis obligé de chauffer le contour avec une machine spécialisée, utiliser des gants, avoir une certaine capacité technique à le faire. La batterie est collée, donc c'est d'autant plus dangereux de le faire par un particulier. Donc, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de réparer un smartphone qu'en 2013-2014.
Commentaire de Frédéric qui nous dit « Le reconditionnement n'est pas qu'une bonne affaire, mais c'est un enjeu majeur, le témoignage d'une transformation nécessaire de nos modèles économiques pour la décennie en cours. C'est un enjeu pour la biodiversité, détruite par l'exploitation des terres rares et par le climat. » Quand on voit ça, et je partage l'avis de Frédéric, quand on voit ça, c'est à se demander pourquoi les constructeurs accélèrent pas et rendent pas ça plus réparable. Tu as l'air de dire qu'en fait, ça devient de moins en moins réparable.
Merci Daniel, parce qu'effectivement, la base, en tous les cas, de la réparation et du reconditionnement, c'est effectivement de lutter contre tous ces désastres écologiques. On le voit, hein, ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui consomme, ce qui émet le plus de CO2, tout ce qu'on va faire pour construire un smartphone neuf, c'est juste énorme. Et Frédéric, tu disais sur la partie modèle économique, on est en plein dans le thème PPC, c'est qu'avec la rupture des composants aujourd'hui, de toute façon, on est d'autant plus obligé de se tourner vers le smartphone reconditionné ou d'occasion. Mais effectivement, les constructeurs aujourd'hui n'ont pas forcément d'intérêt. En tous les cas, pour certains, là, j'espère et j'ose espérer, en tous les cas, avec les premières annonces que ça va changer, on voit Apple qui va donner accès aux pièces détachées directement depuis son site, qui commence aux États-Unis au premier trimestre 2022 pour donner accès aux pièces détachées, ils n'ont pas forcément intérêt. Ça reste, on est dans le renouvellement, c'est-à-dire que quand on va avoir des constructeurs qui sortent des smartphones tous les ans, tous les 6 mois, tous les 7 mois ou très rapidement, le but c'est d'en revendre des nouveaux, c'est pas forcément de reconditionner et de revendre l'ancien, puisque c'est pas eux qui vont tenir, qui vont avoir cette chaîne de valeur pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché est tenu par d'autres acteurs qui vont reconditionner et pas par le constructeur. Le constructeur a tout intérêt à vous dire voilà, rachète-en un nouveau parce que voilà, ça fait un an que j'ai pas gagné d'argent avec toi vu que ça fait un an que tu n'as pas renouvelé ton smartphone.
Et on voit quand même des acteurs comme Apple qui nous vendent quand même la durée de vie d'un téléphone avec finalement même des mises à jour d'operating system qui datent d'il y a plusieurs années, donc on peut le durer quand même plus longtemps. Tu vois, les gens gardent de plus en plus longtemps leur téléphone ou ils sont vraiment dans une frénésie de changer tous les ans, tous les deux ans?
Non, ça pour le coup, ça n'a pas beaucoup changé. On reste quand même que soit en entreprise ou en particulier à titre personnel, par exemple, on va quand même rester sur des cycles qui sont plutôt de 2 ans pour changer son smartphone. Ça reste quand même assez rare. Il y en a quand même pas mal, mais ça reste assez rare le fait de changer son smartphone tous les ans. Et on le voit encore aujourd'hui quand un opérateur, même si aujourd'hui les smartphones sont moins corrélés au forfait, on le voit très bien, les forfaits sont souvent de 24 mois, par exemple, avec des engagements tous les 4, 24 mois. Même si effectivement il y a de moins en moins d'engagement sur les smartphones, on voit que ce qui est mis en avant par les opérateurs, c'est souvent les engagements 24 mois, que ce soit pour l'entreprise ou pour les collectivités ou pour les particuliers. Tu n'as pas de grosse rupture technologique comparée d'Apple. Entre le 12 Pro Max et le 13 Pro Max, tu n'as pas une rupture technologique qui est énorme. On prend l'iPhone 6S ou 7 ou 8 ou 10, là effectivement tu vas avoir une grosse différence avec les nouveaux modèles qui sont sortis. Mais tu ne l'auras pas forcément avec les modèles qui sont sortis un an ou deux ans avant. Donc, il y a moins forcément de raisons de changer en tous les cas.
Donc, ils intègrent déjà ces 24 mois de changement. On va prendre la question de Laura qui te demande si le device n'est pas réparable, est-ce que vous pouvez quand même utiliser des pièces ?
Effectivement, on peut quand même utiliser des pièces là-dessus. Alors que certaines pièces, effectivement, Laura, tu ne pourras pas, par exemple, utiliser la batterie vu qu'elle aura déjà été utilisée. Par exemple, la question est très intéressante, Laura, parce que par exemple, on parlait de réparabilité PPC. Il n'y a pas longtemps, si vous avez suivi un peu sur la presse, il y a eu un mini scandale, j'allais dire, avec Apple, puisqu'on ne pouvait pas, par exemple, changer un écran de 13, d'inverser les écrans, par exemple, avec une pièce neuve. Apple mettait ça un peu sur la question de sécurité. Bon, ils sont revenus en arrière, mais effectivement, c'est possible d'utiliser des pièces d'un smartphone qui n'est pas utilisé. Mais encore une fois, il faut y faire très attention parce que c'est des pièces qui ont déjà eu une vie. Donc, il faut faire attention qu'ils ne soient pas oxydés, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas eu de contact avec un liquide, par exemple, durant leur durée de vie. Et on ne peut utiliser que certaines parties de cela, par exemple, notamment pas la batterie pour le coup.
Alors, je vais rebondir sur un autre propos de Frédéric. Il nous dit qu'il faudrait que les constructeurs changent leur modèle et peut-être aller vers une économie de l'usage et non celle de la propriété avec une obsolescence programmé. Bon, c'est pas bon pour ton business, ça, si on change de modèle et que tout le monde, finalement, est dans une logique locative. Non, ça continue, au contraire, ça va le continuer très, très bien.
Nous, on est plutôt effectivement dans un modèle vertueux, donc dans un modèle, comme dit Frédéric, de l'usage, donc as a service, que nous on appelle. Nous, on est plus dans ce modèle-là parce qu'on veut vraiment avoir une virtuosité, en tous les cas, dans notre business, que ce soit pour le nôtre ou pour les acteurs de notre marché. Moi, je fais partie d'associations comme Refas, par exemple, ou Aircube, où on lutte justement pour la réparabilité. Et pour ne pas gâcher notamment nos ressources en fabriquant toujours plus de smartphones neufs. Mais effectivement, aujourd'hui, on le voit, et c'est ce qu'il faudrait, hein, nous, c'est ce qu'on pense en tous les cas, d'être sur du as a service, de gérer effectivement la durée de vie et la fin de vie. Et aujourd'hui, on le voit, Frédéric, ce n'est pas que moi qui le dis, hein, même si ça fait des années qu'on le dit sur notre chez Olin, mais c'est plutôt sur la partie, aujourd'hui, on voit des opérateurs, si vous allez, j'étais sur le site de CrossCall hier soir, et on voit même sur du reconditionné, ils vendent du reconditionné sur leur site aujourd'hui. On le voit, voilà, c'est soit le CrossCall Core X3, par exemple, soit 299€, soit 16,99€ par mois et par appareil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux. Je pense qu'on va de plus en plus là-dessus. Je pense que les opérateurs, notamment grand public, qu'on connaît tous, les quatre opérateurs historiques, vont de plus en plus là-dessus. Je pense que c'est le plus vertueux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, un smartphone, quand il est bien reconditionné, on peut le garder 4, 5, 6 ans. On va avoir aujourd'hui les iPhone 8 qui sont sur le marché. Donc voilà, même si aujourd'hui, un particulier va avoir ce téléphone qui il a pris 24 mois de location, on peut le reconditionner, on peut le remettre à disposition, ce que nous on fait et qui marche plutôt très bien en tous les cas, que ce soit sur la partie qualitative, parce qu'aujourd'hui la seule peur qu'ont les particuliers aujourd'hui, et ils ont raison, tous les acteurs ne sont pas sérieux, c'est effectivement la qualité des produits qu'on récupère. Donc on se dit, un produit qui a déjà eu 24 mois, est-ce qu'il est viable encore après ? C'est en tous les cas un des premiers freins qu'on a à utiliser du reconditionné aujourd'hui.
Question d'Isabelle. Justement, en parlant de sécurité, quid des devices d'entreprise, des smartphones d'entreprise qui détiennent des données ultra sensibles et sont plutôt voués à être détruits par sécurité ? Il y a un traitement spécial pour les smartphones d'entreprise ? Vous faites comment ?
Merci Isabelle pour la question, hyper intéressante. Nous, on le fait au quotidien. Alors, il y a pas mal de logiciels qui existent, notamment Blanco, Picasoft, etc., qui sont certifiés, notamment Blanco, pour faire un écrasement des données certifiées. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui, et c'est obligatoire en tous les cas pour les collectivités, il y a la fameuse RGPD, dès qu'on récupère un smartphone, on doit l'écraser de façon certifiée. Et ça se fait avec des logiciels où on émet un certificat à l'entreprise pour lui signifier que cela a bien été écrasé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est très important. Il y a eu quelques scandales par le passé avec certains acteurs qui se retrouvaient avec des téléphones sur le marché où il y avait encore les données de l'ancien utilisateur. On est censé, en tous les cas, et c'est ce qui est censé être fait par les acteurs du marché, qui le font très bien. On va avoir des acteurs qui est un des plus gros acteurs aujourd'hui en France, qui est Recommerce, va récupérer des téléphones auprès des opérateurs et dans son process, il va récupérer le téléphone. La première chose qui est faite, c'est d'écraser les données du smartphone de façon certifiée et de fournir un certificat. C'est bien de dire qu'on va faire, mais il faut être sûr qu'on le fasse. Et pour cela, il y a pas mal de logiciels qui existent et on peut fournir un certificat. Mais encore une fois, Isabelle, c'est comme les disques durs pour les PC. C'est les mêmes principes et c'est souvent les mêmes logiciels d'ailleurs qui sont utilisés pour écraser les données, de façon, et j'insiste, certifiée. Ce n'est pas le faire avec les manipulations constructeurs qui existent, c'est le faire vraiment avec un logiciel et qui fournit en tous les cas un certificat d'écrasement de données, ou sur le certificat, j'ai le numéro de série de l'appareil qui est unique à chaque smartphone et que je remets moi, soit à l'acheteur particulier, encore une fois, soit à l'entreprise.
Donc ça veut dire qu'on peut remonter la chaîne en cas de souci, c'est très clair, c'est traçable. Ça coûte cher de reconditionner un device ?
Alors encore une fois, ça dépend. Ouais. On va avoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le prix des pièces détachées, par exemple, quand vous allez avoir un Samsung S10 ou S20 pour les plus récents, changer un écran, ce n'est pas forcément viable, mais la plupart du temps, effectivement, c'est viable de réparer un smartphone quand on est sur des réparations classiques, un écran d'iPhone, une batterie, un bouton volume, tout ce qui est réparable, dans tous les cas, ça vaut bien évidemment encore le coup de réparer un smartphone, mais au-delà du fait, même si le premier argument que donnent les Français ou les collectivités, quand moi j'ai la chance de discuter avec elles, ou les entreprises entreprises, c'est effectivement le prix. Mais il y en a quand même de plus en plus qui disent, voilà, bah, c'est aussi un geste écologique que je fais pour ma planète. Mais effectivement, ça vaut encore le coup, sauf sur certains devices très, très spécifiques. Mais encore une fois, les devices sont plutôt très récents, dont le prix de rachat est encore élevé. C'est l'avantage, effectivement, des marques comme Apple, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, bah, même si l'iPhone 12, par exemple, la gamme 12, qui est sortie un peu plus d'un an, 1 an et 3 mois, bah, en fait, elle a quand même une vraie valeur sur le marché aujourd'hui. Donc, ça vaut peut-être encore un peu cher à racheter, à reconditionner, à revendre. Mais sur des modèles un peu plus anciens, iPhone X, Samsung S8, S9, bien évidemment, ça vaut le coup, et pour l'entreprise et pour le consommateur final.
Question de Si Mohamed. Il te demande, Apple va faciliter la réparation des iPhones par leurs propriétaires. Que cache, selon toi, cette évolution d'Apple ?
Merci Mohamed pour la question. Je vous invite sur une association qui s'appelle EurEFAS. On a réagi justement là-dessus. Alors, j'espère en tous les cas, j'espère encore savoir cette naïveté de me dire, bah, effectivement, ils changent leur fusil d'épaule en se disant, voilà, on a été pendant des années contre la réparabilité. On se rappelle de l'erreur 53 où ils bloquaient les changements de boutons. Deux solutions, en fait, c'est soit effectivement, il n'y aura plus accès aux pièces compatibles, donc accès aux pièces génériques, parce qu'Apple va dire, voilà, moi je bloque, en fait Apple a l'avantage, très rapidement je rentre à la technique, Android ça reste Google, c'est-à-dire que c'est open source, enfin, Android, Google va fournir à Samsung, Huawei maintenant c'est un mauvais exemple, mais LG, Xiaomi, Realme, etc. son OS, Apple, voilà, c'est complètement propriétaire, donc en fait ils sont capables de dire, voilà, tu as changé ta pièce détachée avec une pièce qui n'est pas Apple, donc je ne t'autorise pas à faire soit démarrer ton téléphone, soit l'appareil photo ne marche pas. Le texte effectivement que nous on a rédigé, c'est de dire, voilà, on veut, enfin c'est très bien, mais voilà, il faut qu'il y ait une disponibilité des pièces détachées. C'est facile de dire je les vends, mais est-ce que voilà, s'il faut 3 mois pour récupérer un écran d'iPhone 13, bah, le mois ou n'importe quel consommateur ne va pas attendre, mais aussi et surtout le prix. Le prix de l'écran, si vous voyez un écran à 300€ comme mon téléphone, je l'ai acheté 700 alors qu'une pièce générique en vaut 150, voilà, j'ai pas forcément d'intérêt à aller là-dessus. Est-ce que c'est une stratégie de se dire, voilà, bah, aujourd'hui ça va bloquer un peu le marché, je vais bloquer les pièces compatibles et je vais vendre mes pièces détachées en disant, bah, écoutez, moi, il y a de la réparabilité puisque j'ai accès à mes pièces détachées, mais aussi et surtout, moi, j'ai hâte de savoir à quel prix ils vont vendre ces pièces détachées, si elles seront réellement disponibles. Il y a quelques années, par exemple, on avait un constructeur qui, effectivement, ouvrait ses pièces détachées, mais voilà, pour avoir un écran, par exemple, il fallait 3 mois. Aucun de nous va attendre 3 mois quand il a son écran qui ne marche pas, il va forcément aller racheter un smartphone. Donc, c'est pour ça qu'on attend vraiment de voir. Ça se lance au premier trimestre 2022 aux États-Unis. Qu'est-ce que ça cache ? J'espère rien du tout. Et ma seule crainte, c'est qu'il n'y ait pas de disponibilité de la pièce détachée ou une disponibilité tout du moins longue et aussi un prix prohibitif. Et un point, Mohamed, qui est aussi très intéressant dans ta question, c'est que pour l'instant, en tous les cas, ils ne l'ouvrent qu'à l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Donc, si j'ai un iPhone 10 ou un iPhone XS ou peu importe, je ne pourrais pas encore avoir accès à leur pièce détachée, ce qui est dommage parce que l'iPhone X, XS marche encore très bien.
Je prends une question d'Isabelle qui revient un petit peu sur le fait que les entreprises puissent acheter des smartphones reconditionnés. Selon toi, ça peut être considéré, nous demande Isabelle, parmi les engagements RSE d'une entreprise, le fait d'acheter des smartphones reconditionnés?
Bien sûr, c'est complètement ça et on le voit aujourd'hui. Hein, même si effectivement, on parlait de la loi AG tout à l'heure, moi j'ai des collectivités en tous les cas qui depuis très longtemps... alors ça, mais en plus, il y en a qui le font aujourd'hui parce qu'effectivement il y a une loi qui est sortie, mais il y en a qui le font et heureusement vraiment par conviction, et que ce soit des collectivités ou des entreprises privées. Là-dessus, bien sûr que ça, en tout cas, ils communiquent là-dessus puisque nous on leur fournit effectivement, que ce soit moi ou d'autres acteurs, un bilan carbone de tout ce que leur stratégie en tous les cas de prendre du smartphone reconditionné, ou encore une fois, je parle du smartphone, mais il existe aussi beaucoup de PC reconditionnés de plus en plus depuis le Covid et les ruptures de stock qu'il y a. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est des stratégies, et pour pas mal de boîtes du CAC 40 notamment, de partir sur smartphone reconditionné pour améliorer leur bilan RSE, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, quand on voit en fait tout ce que parcourt un smartphone, bon, entre la partie fabrication qui est juste dingue sur tout ce que ça consomme, mais aussi sur toute la partie transport pour amener un smartphone en France, voilà, aujourd'hui, acheter un smartphone reconditionné, bah, sur des acteurs, encore une fois, locaux et pas des acteurs étrangers, c'est complètement vertueux et ça intéresse les entreprises sur leur bilan RSE. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui demandent, parce qu'en fait, il y a deux gros sources d'approvisionnement. Je vous parlais tout à l'heure de Recommerce, par exemple, qui est un acteur qui va acheter la plupart de ses smartphones, en tous les cas en France, par exemple, pour les opérateurs. Mais il y a aussi beaucoup de smartphones qui viennent des États-Unis, qui est un gros marché, puisque les opérateurs AT&T, etc., poussent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de smartphones qui sont achetés, mais une grosse majorité, en tous les cas, qui sont achetés aux États-Unis. Donc, voilà, c'est bien de dire qu'il y a de l'écologie, mais effectivement, quand un smartphone a fait New York ou Miami. Miami est une grosse partie. Il y a pas mal de lignes de recrutement là-bas jusqu'en France. Il y a aussi l'appareil de transport qui est moins écologique. Mais effectivement, les entreprises ou les collectivités, ça rentre dans leur bilan RSE. Et aussi et surtout, ils nous demandent voilà, de la provenance. Il ne suffit pas que vendre du reconditionné, mais il faut aussi le justifier, le prouver. Et de dire voilà, d'où vient ce smartphone reconditionné, de prouver qu'il effectivement, il respecte ce cercle vertueux, cette économie circulaire.
Sur toute la chaîne de valeur. Tiens, alors, dernière question, c'est une question qui ouvre vraiment vers des perspectives, c'est la question de Lucie. Elle nous demande, comment vois-tu l'évolution de ce marché dans 5 ans ? Tu as 60 secondes.
Merci Lucie. Effectivement, bonne question. Alors, je l'espère en tous les cas que ça continuera à évoluer là-dessus. Aujourd'hui, on est sur 30% des gens qui ont ces smartphones reconditionnés. J'espère plus. Et encore une fois, moi, je pense que ça va être vraiment sur la partie qualité qu'il va falloir miser et traçabilité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui se lancent où il n'y a pas forcément de traçabilité, pas forcément qui ne sont pas spécialisés là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, la première peur des particuliers ou des consommateurs, c'est de dire, voilà, je vais avoir un smartphone, est-ce qu'il a bien été reconditionné ? Est-ce que si j'ai une garantie, je vais pouvoir appeler quelqu'un ? Est-ce que ça sera pris en charge, etc. Dans 5 ans, si le marché continue comme il est avec les acteurs qu'on a, je pense qu'il continuera à bien fonctionner. Et la seule crainte que j'ai, c'est si on n'arrive pas à enlever ce frein, puisqu'il y aura beaucoup d'acteurs qui seront lancés, qui ne seront pas forcément issus de ce milieu et qui ne seront pas complètement transparents et qui ne feront pas ça vraiment avec des convictions, en tous les cas écologiques, mais que économiques. J'ai peur effectivement qu'il y ait trop de Français qui soient déçus des smartphones reconditionnés qu'ils ont achetés, parce qu'il y en a encore beaucoup, puisque le reconditionneur qu'ils ont choisi était certes moins cher que les autres, mais parce que c'est normal, parce qu'ils ne respectaient pas forcément tout le process de qualité de traçabilité comme on le fait les acteurs français aujourd'hui sur le marché.
Donc on est bien sur le rapport qualité-prix. Mohamed, mille merci d'être passé ce matin dans ce podcast. Merci aussi à vous toutes et vous tous qui avez posé vos questions. C'est comme ça que ça se passe chaque matin. Toi qui as écouté cet épisode du podcast sur une plateforme de baladodiffusion, une plateforme classique d'audio à la demande, merci d'être arrivé jusqu'ici. Ça fait du bien au taux de complétion. Voilà, alors tu peux aller, si tu souhaites encourager ce podcast, mettre quelques étoiles sur Apple Podcast, un commentaire sympathique, ça fait toujours du bien. Demain matin, on se retrouvera dès Potranminé à 7h30. Oh, savoir poser les bonnes questions, ça change quoi ? Oui, tu sais, dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui savent poser les bonnes questions et qui savent écouter. Mais pour bien comprendre comment ça fonctionne, l'invité du podcast sera Lucie Léger. Tu sais, notre coach professionnel d'équipe, elle va venir nous livrer ses secrets pour poser les bonnes questions. Mille merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. On se retrouve demain matin et surtout, ne lâchez rien. Ciao.